Bon matin tout le monde. Je vais en profiter ce matin à faire lever mon père qui est ici. Tu peux te lever, oui, parce que mon père il a 80 ans aujourd'hui. On peut quand même souligner ça. Bonne fête, papa. Non, mais bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ceux-là qui sont ici pour la première fois. J'espère que vous ne sortirez pas d'ici traumatisés ce matin. Spécial Pâques ce matin, je commence par vous souhaiter une joyeuse Pâques. Peu importe de quelle façon vous concevez la fête de Pâques, je vous souhaite quand même une joyeuse Pâques ce matin. Si vous êtes ici, j'ose imaginer qu'il y a peut-être une curiosité en dedans de vous qui veut peut-être vous amener un petit peu plus loin ce matin. Puis c'est mon but ce matin de vous amener un petit peu plus loin. Fait que ce matin, on a une réunion spéciale. Il va y avoir un message que je vais essayer de faire court. Je ne pensais jamais de pouvoir dire ça un jour, mais oui, je vais essayer de le faire court. Puis après ça, ben, il y a des baptêmes. On a deux baptêmes ce matin. Fait que je commence, en fait, le thème de Pâques, qui est quand même assez présent. Si on a, bon, on a Noël, on a toutes les fêtes un peu que nous, les Québécois, avec un arrière-plan catholique, ces fêtes-là sont comme présentes. Puis au cours du temps, ces fêtes-là ont un peu changé, la signification a un peu changé pour nous. Pour la majorité, pour Pâques, souvent, ça va être une réunion de famille, tout simplement, avec un bon repas, du chocolat en masse, long congé, l'arrivée du printemps, ça peut signifier un peu tout ça. Puis en préparant mon message, ben j'ai découvert un article de la presse qui a paru il y a déjà quelques années, ça date quand même comme article, mais ça disait « Que reste-t-il de Pâques? » qu'est-ce qui reste? Justement, avec notre société qui est en changement, qui a rejeté un peu Dieu, la religion, tout ça, qu'est-ce qui nous reste de Pâques? Puis à travers cet article-là, ben, on a différents acteurs de la société, du préposé aux bénéficiaires à avocats, à professeurs, à médecins, qui expriment un peu ben, qu'est-ce qui reste de Pâques? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux, Pâques? Je trouve intéressant de le mentionner ce matin. Il y en a un pour un, c'était comme un temps d'arrêt dans notre course folle de la vie. Puis ça nous permettait de réfléchir à certaines valeurs. Je trouvais ça intéressant. Celle oubliée qui rendait notre société meilleure. Il y en a pour d'autres, ça évoquait le printemps, la notion d'un genre de passage. Préposée aux bénéficiaires, elle disait, « Elle, moi, c'est un congé payé pour moi. » Puis j'entendais mon fils dire, « Moi, vendredi, je payais tant double. » Un urgentologue trouvait ça intéressant aussi. Il disait, « Ben, pourquoi Pâques, peut-être, aurait besoin d'être ressuscité? Hein? » mais il parlait plus, lui, à sa façon. Pourquoi qu'on réinvente pas Pâques à notre façon? Il y en a pour d'autres, c'est l'occasion du ménage du grand ménage du printemps. D'autres traditions familiales où on sort le jambon à l'ananas, on va se faire une bonne sangria, chasse aux œufs de Pâques, réunion de famille, fête de famille, on oublie nos soucis quotidiens, on oublie le régime aussi, puis on se gave de bonne bouffe puis de chocolat. Il y a un prof dans l'article, il y en a certains qui vont l'aimer, celle-là. Il y a un prof dans l'article qui dit qu'à l'occasion du long congé, du long week-end de Pâques, nos politiciens et bureaucrates font relâche. Imaginez, 4 jours pendant lesquels ils ne dépenseront pas vos impôts pour votre bien. Est-ce que Pâques, c'est juste une antiquité, une fête déconnectée de notre réalité? En quoi cette fête peut avoir un rapport avec nous encore aujourd'hui, en 2024? En quoi je suis concernée par cette fête-là? Si on allait ce matin plus loin que les apparences, de ce que ça semble être. D'abord, Pâques, ça évoque la résurrection, le renouveau. Hein, on l'a vu dans certains commentaires là, de l'article. Il y a quelque chose qui émerge un peu de cette saison-là. Puis pour nous, les croyants, les chrétiens, ça évoque la résurrection. Ni plus ni moins que la résurrection de Jésus. C'est un thème qui est quand même présent, qui est récurrent. En quoi le message de la résurrection peut avoir un rapport avec toi qui est assis là ce matin, puis avec moi qui est là ce matin. Dans la Bible, qui n'est pas un livre démodé, au contraire, dans la Bible, on trouve toute la vie de Jésus. En fait, on découvre la personne de Jésus. Qu'on passe de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, tout est à propos de la personne de Jésus. Tout ce qu'il est, puis ce qu'il a fait. Puis tout ce livre-là sert à nous annoncer une bonne nouvelle. C'est quoi cette bonne nouvelle-là? Cette bonne nouvelle-là appointe vers un événement culminant, justement, où là change tout, où là a changé le sort de l'humanité. Tout ce livre-là, toute la vie de Jésus pointe vers la croix puis vers la résurrection. On est dans une série présentement, il y a plus, ça s'appelle série Miracles, où on revisite un peu les miracles que Jésus a fait durant sa vie sur Terre. ça dit que Jésus a tellement fait de miracles que même la terre ne contiendrait pas assez de livres pour contenir tout ce qu'il a fait finalement, parce qu'il y en a trop. Mais les auteurs, les évangélistes qui ont décidé, sous la direction de l'Esprit, d'écrire l'histoire de Jésus, de relater ces choses-là, ils ont permis que ce soit relaté juste certains miracles, mais dans un but en arrière. Puis c'est ce qu'on découvre, parce que chaque miracle que Jésus a fait a une portée un peu plus grande que ce qu'on peut lire. Ça nous amène à voir au-delà des apparences, que le miracle, en fait, il cache un miracle encore plus grand. Que ce soit que Jésus utilise un miracle, une parabole, une allégorie pour nous aider à comprendre ou une histoire, ça cache une vérité profonde, puis la vérité que Jésus veut nous révéler. Ça cache l'annonce d'une bonne nouvelle. Dans ces miracles-là, ce que Jésus fait, il y a un aspect où Jésus vient rencontrer un être humain, que ce soit un homme, une femme ou un enfant. Jésus rencontre la personne, puis on voit l'intention de Dieu qu'on découvre que c'est un Dieu qui est relationnel, qui est attentionné. Il prend le temps pour les gens. Mais il y a un aspect aussi public où quand Jésus vient faire un miracle, où il vient annoncer, en fait, c'est qu'il est en train d'annoncer au monde qu'il y a un royaume. Qu'il y a un royaume qui s'en vient, qu'il y a un royaume qui est là, puis que lui, il vient annoncer ce royaume-là, puis il vient non seulement l'annoncer, mais il vient le démontrer. En théologie, ça s'appelle le déjà-là, mais pas encore. C'est que le royaume, Jésus vient l'annoncer, fait qu'on le voit déjà, mais il n'est pas manifesté encore pleinement. Il n'est pas là pleinement, parce que la souffrance est encore là pleinement. La maladie est encore là. Donc, ce que ça fait, c'est quand Jésus vient performer ces miracles-là, c'est qu'il est en train de nous annoncer qu'il y a quelque chose dans cette vie-là qui est temporaire, mais que ça pointe vers quelque chose qui est plus grand, qui est éternel. Donc, c'était mon intro. Je vais prier. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Seigneur, ce matin, on a besoin de toi, on a besoin de ton esprit, ta direction. On veut que tu viennes ouvrir nos cœurs pour qu'on puisse arriver à saisir ce que tu veux nous dire au travers du message de la croix. Au travers de la résurrection. En quoi, Seigneur, ça nous concerne? Du plus petit au plus grand. Peu importe d'où on vient, en quoi ça nous concerne ce matin? Seigneur, viens ouvrir nos cœurs, puis on veut te laisser toute la place ce matin. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Il y a une raison à tes pourquoi ». On a tous des pourquoi. Puis dernièrement, j'avais une conversation avec certaines personnes. On était à un souper. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Il était question du travail, du temps qu'on met dans le travail, l'énergie qu'on met dans le travail, la pression qu'on va subir, le stress, toute l'énergie dépensée pour qu'au bout du compte, ça va donner quoi? Est-ce qu'on va se rendre jusqu'à se tuer au travail? Est-ce qu'on va se rendre jusqu'à mourir? Puis là, la question qui a émergé, c'est mais finalement, on veut mourir pourquoi? Pourquoi on veut mourir? Puis la question, moi, qui m'était émergée, c'est, finalement, c'est la question, c'était plutôt, pourquoi je veux vivre? Pourquoi je vis? Pourquoi je veux me lever chaque matin? C'est quoi la raison qui fait que je me lève? C'est quoi la raison qui fait que la semaine prochaine, je vais me lever? Le mois prochain, dans un an, dans deux ans? Puis si ce matin, vous repartez avec cette question-là, puis que ça continue de rouler, je suis contente, je vais avoir atteint mon but. Puis, peut-être que vous allez avoir certaines réponses au travers de l'histoire de la résurrection ce matin. Puis on est habitué à Pâques, c'est l'histoire de la résurrection de Jésus, mais ce matin, on va le voir au travers d'une autre histoire. C'est au travers du miracle de la résurrection, en fait, de la fille de Jaïrus. On va découvrir c'est qui ça, c'est qui Jaïrus, qu'est-ce qu'il mange en hiver, puis c'est quoi cette histoire-là. Fait qu'on va tout démêler ça ce matin. Cette histoire-là, elle se retrouve dans trois évangiles, dans Matthieu, Marc et Luc, mais ce matin, on le voit au travers des yeux de Marc. Puis Marc, ce qui est quand même étonnant, c'est que c'est un évangéliste. Souvent, il va donner pas beaucoup de détails. Il va droit au but, Marc. Mais dans cette histoire-là, il va vraiment mettre de la viande autour de l'os. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi, au travers de Marc, de vous raconter l'histoire. Fait qu'on commence dans Marc, chapitre 5, à partir du verset 21 à 24. Je vais prendre une petite gorgée d'eau parce que... Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jaïrus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance, Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée. Et elle vivra. Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. C'est la première partie de l'histoire. Puis après ça, Jésus, bon, se lève, puis il s'en va avec Jaïrus. Puis il y a une foule qui est autour d'eux. Jésus commence à être connu. Les gens sont autour de lui, ils veulent entendre, il prêche, il raconte un message qu'on n'a jamais entendu. Il fait des choses qu'on n'a jamais vues, fait qu'il y a une foule qui commence à être autour de lui. Puis Jésus se lève avec Jaïrus. Dans d'autres traductions, ça dit « il se leva ». Il se leva, puis il suit Jaïrus. Puis là, il y a comme une petite intermède dans l'histoire, parce qu'en cours de chemin, il y a une interruption. Il y a une femme qui expérimente une guérison de Jésus à ce moment-là, qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Je ne vais pas dans cette histoire-là matin parce que le message serait trop long. Ça fait partie d'un autre message prochainement. Mais Jésus est interrompu par cette femme-là. Il prend le temps avec cette femme-là. Il prend le temps avec elle. Elle vit sa guérison. Elle vit cette rencontre-là avec Jésus. Puis je peux imaginer Jaïrus qui est venu vers Jésus pour avoir de l'aide pour sa fille. Puis que là, de voir Jésus qui, tout d'un coup, il s'arrête, il prend le temps pour cette femme-là. Puis Jaïrus, il attend. Puis je me demande comment il se sentait, puis comment il vivait ce moment-là, de voir que Jésus prenait son temps comme ça, puis pourtant, sa fille était sur le bord de mourir. Mais Jésus prend le temps pareil. Puis à un moment donné, dans Marc, on continue, Marc, verset 35-36, il continuait de finir avec la femme. Puis là, il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître? » Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement. » Donc, c'est l'introduction de notre histoire. Le contexte ici, Jaïrus, il s'est dit que c'est un chef de la synagogue. C'est un peu l'équivalent d'un prêtre catholique dans son église ou d'un pasteur dans une église. Hein? Il s'occupe des affaires de l'église, il s'occupe des gens, il s'occupe de l'administration. Il est connu des gens. Puis, ça suppose aussi que Jaïrus connaissait déjà Jésus, parce que déjà, dans l'évangile de Marc, au début du chapitre, Jésus a déjà commencé à enseigner dans les synagogues. Il a commencé à faire des miracles. Fait que c'est pas étonnant que Jaïrus, sa fille commence à être malade, elle commence à être mourante, il s'en va vers Jésus pour lui demander de l'aide. Il supplie Jésus. Jésus se lève. Il y a l'interruption qui arrive, puis tout d'un coup, on lui annonce que sa fille est morte. Pourquoi tu le déranges encore? Il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Arrête ça. Puis pour certains d'entre nous, on est tous sur le chemin de la vie. Hein? On est là, on avance, c'est notre chemin. Puis on vit toutes sortes de choses dans nos vies. Vous avez remarqué que la vie, ce n'est pas un chemin linéaire où il n'y arrive rien. On marche sur des nuages, puis tout est beau. On vit toutes sortes de stress, toutes sortes de difficultés, toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de défis. On vit des joies, on vit des peines, on vit des deuils. Pour certains, on a peut-être perdu espoir dans des places. Il y a peut-être des parties de nos vies où c'est mort. Puis on a peut-être fermé la porte à beaucoup de choses dans notre vie. Puis quand Jésus il entend ça, cette parole-là, arrête de le déranger, est morte, c'est fini. Jésus fait deux recommandations. Tout de suite, il se tourne vers Jaïrus, il dit, aie pas peur, puis crois seulement. C'est pas un peu étrange. Sans me dire, tu sais, arrête de te casser la tête avec ça. Aie pas peur, sois pas effrayé. T'as pas besoin de tout comprendre pour l'instant, là, ce qui est en train d'arriver. Crois seulement, fais-moi confiance. Jésus n'est pas en train de nier les faits quand il dit ça. Il n'est pas en train de dire non plus « Fais semblant qu'il ne se passe rien, ça va bien aller. » Au contraire, il a reconnu que Jaïrus avait peur. Il a reconnu la gravité de la situation. Tout de suite, il s'est tourné et a dit « Crois, n'aie pas peur. » Jésus n'est pas en train de dire non plus de ne pas se servir de son intelligence. Hein? Il n'y a rien là, tu paniques pour rien. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que la peur, c'est jamais un bon guide. Tu sais, il y en a-tu ici, on a tous déjà pris des décisions sous la peur. Hein? Parce qu'on a été fracassé ou frappé par toutes sortes de choses dans la vie. Hein? Par peur d'être à nouveau blessé, rejeté, des fois on va prendre des drôles de décisions. Par peur d'être rejeté, par peur d'être déçu encore, par peur de décevoir, par peur de tromper, de vivre un échec. Par peur des fois de ce que les gens vont penser. Mais Jaïrus, malgré sa peur, sa confusion du moment, Jésus il demande quand même de croire. Puis parfois, on a l'impression qu'il faut qu'on comprenne tout pour faire confiance. Je ne suis pas toute seule comme ça, hein? On voudrait donc tout comprendre pour faire confiance. Mais la foi, ce n'est pas ça. On n'a pas besoin de tout avoir les réponses pour croire. Mais c'est en croyant que souvent on va avoir des réponses. Martin Luther King disait, « La foi, c'est de prendre la première marche, même si on ne voit pas tout l'escalier. » Malgré les faits, malgré les circonstances, malgré les délais, les interruptions qu'on a, les attentes, les incompréhensions, les souffrances, les injustices, les pertes qu'on vit, ce qui semble fini des fois, définitif. Là où des fois, moi, j'ai mis un point final, c'est fini. Jésus, lui, vient mettre une virgule. Non, non, ce n'est pas un point, c'est une virgule. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas ce que tu penses. L'histoire continue. J'aimerais dire qu'elle continue pour toi aussi ce matin. Puis on continue aussi notre histoire. Jésus, avant de continuer son chemin, il a dit au chef de la synagogue, « Aie pas peur, crois seulement. » On continue versets 37 à 43 dans Marc 5. « Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquaient de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit, « Talita kumi », c'est en araméen, ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi ». Je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. À cette époque-là, quand il y avait un décès, il y avait tout un rituel de deuil qui prenait place, puis même qu'il y avait des pleureuses qui étaient engagées, payées, des pleureuses professionnelles pour commencer ce rituel de deuil-là. Fait que c'était des pleureuses, étaient engagées, payées pour pleurer, pour crier, pour rentrer dans cette espèce de rituel de deuil-là qui prenait une très grande place à cette époque-là dans ce peuple-là. Puis malgré ce qui semblait comme tu rentres dans un rituel de mort, là, c'est fini, il n'y a plus d'espoir, là. Malgré que les gens ont commencé à se moquer de lui, ça n'a pas arrêté Jésus. Il est arrivé, il a dit « Jeune fille, lève-toi ». Puis elle est revenue à la vie. Cette histoire-là de résurrection, elle annonce en fait la résurrection de Jésus. Elle annonce que cette histoire-là, elle me rappelle qu'il y a autre chose sur cette terre. Il y a quelque chose de plus grand qui s'en vient. Parce que Jésus a ressuscité la fille de Jaïrus, mais elle a fini par remourir, cette fille-là. C'était temporaire. Jésus annonçait quelque chose d'éternel. Il annonce une éternité que je peux juste espérer par la foi en celui qui est vivant, qui est ressuscité. Il en est la preuve vivante parce qu'il est ressuscité, justement. Une place où la maladie ne sera plus là, où le deuil ne sera plus là, où la mort, la souffrance, le mal, la détresse n'existera plus. Puis ce matin, la question que je pose, c'est si la résurrection, en fait, c'était une réponse à mes pourquoi. En quoi le message de la résurrection de Jésus a un rapport avec moi puis toi aujourd'hui? En fait, la résurrection, c'est pour tous ceux qui ont perdu espoir. C'est pour ceux qui sont éloignés. C'est pour ceux qui ont peur. C'est pour ceux qui ont des doutes. C'est pour ceux qui sont tombés. C'est pour ceux qui ont perdu ou qui sont perdus. C'est pour ceux qui croient encore. C'est pour ceux qui n'ont pas toutes les réponses. C'est pour ceux qui veulent savoir pourquoi ils vivent. Puis sur mon chemin, sur ton chemin présentement, peut-être que tu es arrêté, tu es comme on dit en bon québécois, tu es stallé là. Tu n'avances plus, tu es là. Tu n'es pas à la place que tu voudrais être dans la vie. Tu ne vis pas les choses que tu voudrais vivre. Il y a trop eu d'obstacles, il y a trop eu d'accidents. Il y a trop eu d'accidents de parcours, trop de mauvais choix, trop d'épreuves, trop de difficultés, séparation, divorce, maladie, difficultés financières, relations abusives, toxiques, peu importe, name it, il y en a. Épuisement, trop de découragement, t'es trop en colère, t'es trop amer, tu peux te sentir trop déconnecté. Peut-être que toi aussi, tu t'en rends peut-être pas compte, mais ça fait des années que tu te chantes un chant de deuil sur ta vie. Que toi aussi, tu es dans une espèce de rituel que tu te chantes, puis tu te proclames la mort. Hein? C'est fini, c'est trop tard, ça sert à rien, c'est terminé. Mais je suis là pour te rappeler ce matin que Jésus est à l'œuvre, peu importe ce que tu es en train de te dire. Jésus est à l'œuvre au-delà des apparences. Il n'est pas déconnecté de ce que tu vis sur ton chemin. Là où tout s'est arrêté pour toi, Jésus va prendre le temps de s'arrêter pour toi aussi. Jésus prépare toujours quelque chose. Jésus n'est jamais inactif. Même si tu es persuadé qu'il ne se passera rien. J'inviterai les musiciens à s'avancer pour la fin de mon message. Est-ce que vous dormez? Vous me suivez encore? Ça va? Prendre une petite gorgée. Si la question finale ce matin, c'était au lieu du pourquoi je vis, pourquoi je vais vivre, pourquoi je veux vivre, c'était plutôt pour qui je choisis de vivre. Puis si c'était le qui venait tout changer ce matin. Le message de Pâques, c'est l'annonce qu'une vie nouvelle est disponible maintenant, au-delà des apparences. Jésus me dit aussi, n'aie pas peur, mais crois. Puis c'est ce qu'il dit aussi ce matin. Avec nos doutes, nos incompréhensions, nos déceptions, sentiments de honte, de culpabilité, il dit, viens à moi, puis fais-moi confiance. S'il n'y avait pas eu la croix, il n'y aurait pas eu de résurrection. Avant le dimanche, il y a eu un vendredi. Il y a eu un vendredi noir. Il y a eu un vendredi de souffrance. C'est pas étonnant qu'on vive le chemin de la souffrance aussi. La croix me rappelle que la vie, c'est un passage, que c'est temporaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on meurt tous. On va tous mourir. C'est temporaire. La croix m'annonce que moi aussi, je vais mourir, mais qu'il y a une vie éternelle après. Qu'elle peut m'être offerte dès maintenant. Que ce n'est pas juste un plan de retraite pour après la mort. Ça peut commencer maintenant, aujourd'hui. La croix me place devant un choix. À la croix, Jésus veut changer ma mort éternelle pour me donner sa vie éternelle. Comme Jésus s'est levé pour la fille de Jaïrus, Jésus il s'est lavé de la mort pour toi et pour moi. Pour que toi aussi, tu puisses te lever et vivre pour lui. Il a pris ce qui me séparait de Dieu, mes péchés, le mal en moi, pour que je sois réconciliée avec Dieu. Il a pris mes souffrances pour me guérir. Il a pris sur lui, il a payé le prix de ma culpabilité. Toutes les conséquences et la puissance que le péché avait sur ma vie pour me donner le pardon et m'accorder une pleine liberté. C'est à cause de la résurrection que je peux obtenir le pardon de mes péchés, la justification. Puis là, tu dis, ouais, c'est facile à dire ça. Mais Jésus a tellement donné un bel exemple à un moment donné, au travers d'un miracle. Il a guéri un paralytique devant tout le monde, il y avait une foule. Puis à un moment donné, les chefs religieux étaient là, puis Jésus disait, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Puis les chefs religieux disaient, ouais, mais tu prends pour qui lui dire tes péchés sont pardonnés? Mais tu sais quoi qui est plus facile, de dire tes péchés sont pardonnés ou prends ton lit? Lève-toi puis marche. L'homme était paralysé. L'homme s'est levé, il a pris son lit, il a marché. C'est la preuve que Jésus non seulement est guéri, mais qu'il pardonne les péchés. C'est à cause de la résurrection que je peux être réconciliée avec Dieu puis entrer dans une relation intime avec lui. Que je peux être restaurée. C'est à cause de la résurrection que je peux vivre pour l'éternité. La loi, c'est la croix, c'est un lieu d'échange. C'est pas moins que toute ma vie en échange de sa vie. Malgré les apparences d'échec, hein, Jésus est cloué sur une croix. On dirait que c'est un des plus grands échecs de l'histoire, mais en fait, c'était une des plus grandes victoires que Jésus était en train d'accomplir. Il est en train de vaincre pas moins que la mort. Jésus a vaincu la mort. Malgré l'apparence de fin ou d'échec dans ta vie, il y a une vie nouvelle pour toi aujourd'hui en Jésus. Malgré les apparences de ta vie en ce moment, la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est là aussi pour te donner une nouvelle vie ce matin. Par la foi, en lui faisant confiance, en acceptant que peut-être que tu ne comprends pas tout. Mais ce don-là, on le reçoit. On ne le comprend pas, on le reçoit. Après, on comprend. La résurrection, c'est une invitation personnelle pour tous à chaque jour. On place toute notre confiance en quelque part. On est tout être humain. En quelque part ou en quelque chose. Mais on la place souvent dans des choses qui sont temporaires, qui peuvent, n'ont pas nécessairement un impact dans notre vie pour la transformer. Ils peuvent rien pour notre éternité, ces choses-là. Pour qui je vais vivre ici-bas va avoir un impact jusque dans l'éternité. Jean 3,16, c'est un verset connu pour les croyants, mais tellement puissant. En effet, Dieu a tant aimé le monde, son amour, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai cherché dans le dictionnaire « quiconque », parce que je me suis dit, il y a peut-être des exceptions dans « quiconque ». Mais ça veut vraiment dire « toute personne qui », n'importe qui que ce soit, n'importe quel, tout le monde. Il n'y en a pas d'exception dans « quiconque ». Quiconque croit peut recevoir la vie ce matin. Dans Romains 6, 23, je ne l'ai pas écrit, mais ça dit que le salaire du péché, le péché, il y a un salaire, il faut qu'on le paye. Ce salaire-là, c'est la mort. Mais ce que Jésus a fait à la croix, c'est qu'il a payé pour moi, il a payé à ma place, pour que je reçoive gratuitement sa vie. Jean 16, 33, ça dit, il fallait, c'est Jésus qui dit, qui parle à ses disciples, il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Jésus, il sait qu'on a peur. On est des êtres humains. On est souvent dans la crainte. Hein? Malgré tes peurs, laisse-toi pas guider par ça. Je t'ai dit ces choses-là pour que ce soit moi qui te guide. Ma paix va venir. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Hein? La souffrance va être là encore. Les difficultés vont être là encore. Mais courage. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu le monde. J'ai tout vaincu. Je trouve intéressant aussi de souligner que Jaïrus, dans les noms dans la Bible, souvent évoquent, ont une signification. Nous, on appelle nos enfants aujourd'hui sans nécessairement avoir de signification en arrière, mais dans ce temps-là, le nom était porteur de l'identité de la personne, un peu de l'histoire de la famille ou ce qu'elle allait devenir ou ce qu'elle était appelée à être. Jaïrus, ça veut dire « celui que Dieu éclaire ». Celui que Dieu éclaire. On a tous besoin que Dieu vienne nous éclairer. Au-delà de ce que ça semble, des apparences, de ce que les autres peuvent dire, on a besoin que Dieu nous éclaire. Puis le chant qu'on va chanter ce matin, c'est le chant de la bénédiction, que Dieu te bénit et te garde, qu'il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Puis si c'est ta prière ce matin, bien, tu peux dire, quand ça va chanter, tu peux le dire dans ton cœur, « Seigneur, je veux que tu m'éclaires dans mes pourquoi ce matin. » Veux que tu m'éclaires dans pourquoi je vis ce matin, pour qui je vis ce matin. Peu importe ton état, ce matin, il y a toujours une résurrection pour toi. Hein? Dieu, il n'est pas mort, il est vivant. Il s'est levé de la mort pour toi puis pour moi, pour qu'on puisse vivre pour lui. Pâques, ben, c'est un rappel de la croix que Jésus a pris notre pire pour nous donner son meilleur. Je vais prier, je vais vous demander de vous lever. Dieu a tant aimé le monde. C'est pas étonnant que Dieu s'adresse à notre cœur avant. Avant qu'on comprenne tout. Ça se peut que ce matin, que ton cœur y soit interpellé. Ça, c'est l'amour de Dieu pour toi. Ça le dit, Dieu, c'est par amour qui est venu. C'est par amour qui s'est sacrifié. C'est par amour encore aujourd'hui qui nous appelle. Ça ne s'adressera pas toujours à ton intelligence en premier, ça s'adresse à notre cœur. Parce que la croix, c'est la plus grande preuve d'amour de toute l'histoire de l'humanité. Puis c'est la plus grande preuve d'amour de Dieu envers toi. Seigneur, on te remercie pour l'œuvre de la croix ce matin, pour l'œuvre de la résurrection. Merci pour cet acte d'amour-là, extravagant envers nous. Seigneur, tu n'as pas ménagé ta vie, tu l'as donnée pour qu'on puisse recevoir cette vie-là. Seigneur, tu nous lances cette invitation-là à chaque jour, à chaque seconde. Hein, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Seigneur, ce matin, je prie que tu visites chacun de nos cœurs, qu'on puisse voir notre besoin de la croix, de la résurrection ce matin. Si c'est ton cas ce matin, tu peux prononcer ces paroles-là, que Seigneur, je te demande de venir dans mon cœur ce matin. Je te demande pardon pour mes péchés. Je prie que tu m'accordes ton pardon ce matin. Et je veux recevoir ta vie. Et que tu viennes guider toute ma vie, Jésus. Merci, Seigneur. En ton nom, Jésus, qu'on a prié. Amen. Durant le dernier chant, je vais inviter les